Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mercredi 8 décembre et nous sommes ravis de vous accompagner jusqu'à 6h30.
Je travaille à l'usine depuis plus d'un mois. Je mange à la cantine, tout va bien pour moi.
Je travaille à l'usine et tout va bien pour moi, chantait Claude François en 1966. Et bien 55 ans plus tard, il se pourrait bien qu'on entende à nouveau ce refrain.
Notre industrie reprend des couleurs en partie grâce aux relocalisations.
C'est simple, on n'en a jamais eu autant depuis 2009, conséquence de la pandémie qui a mis en lumière tous ces produits que l'on ne fabrique plus, conséquence aussi du plan de relance qui en découle. Mais est-ce que ces relocalisations, priorité absolue d'Emmanuel Macron, sont suffisantes pour réindustrialiser la France, pour créer des milliers d'emplois qui sont d'ailleurs ces entreprises qui choisissent de revenir au pays? Autant de questions que l'on posera à 6h10 à notre invité David Kousker, le patron de l'Observatoire économique Trendéo. Ce matin, on va prendre également la direction de Lyon, Omblin.
Oui, nous sommes le 8 décembre, c'est aujourd'hui la fête des Lumières, les Lyonnais le savent, hein, la tradition veut que les habitants déposent des lumignons sur les bords de leurs fenêtres, et depuis le tout début des années 2000, la fête des Lumières, c'est aussi et surtout le soir des installations grandioses, une manifestation lumineuse qui attirait tous les ans 3 à 4 millions de visiteurs.
Sauf que l'année dernière, en pleine pandémie, l'événement avait été annulé, on craignait que ce soit le cas également cette année.
Finalement, l'exécutif l'autorise mais veut des règles strictes. À quoi va ressembler cette 21e fête des Lumières? Nous serons à 5h45 avec Audrey Henoch, adjointe aux grands événements de la ville de Lyon.
Le mercredi, c'est cinéma dans la prescription culture et c'est aujourd'hui que sort dans les salles West Side Story.
Le remake événement de Steven Spielberg 60 ans après le film du chorégraphe Jérôme Robbins et Robert Wise. Rendez-vous à 6h10 avec Laurie Choleva.
Et justement, dans la partition ce matin, on retrouvera les Sharks, les Jets, Maria et Tony.
Oui, comme en 1961, s'il vous plaît, sur les toits et les escaliers de secours d'un New York crasseux de l'après-guerre. West Side Story, la comédie musicale culte sur des compositions de Leonard Bernstein dans la partition à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bon alors comment s'annonce ce mercredi?
Eh ben pas terrible, très agité, c'est vraiment pas très chouette ce qui va se passer. On a ce qu'on appelle aujourd'hui un temps de traîne, vous savez, c'est le temps qu'on a après le passage d'une perturbation. Celle d'hier était assez active, donc du coup le ciel de traîne il est pas mal lui aussi. Alors en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, sur le grand quart sud-ouest, on a des pluies soutenues aujourd'hui, on a de la neige en abondance hein, sur les Pyrénées, 1500 mètres aujourd'hui, 900 mètres ce soir. Sur le bassin aquitain, là on a du gros vent et du grésil, du vent il y en a aussi sur le Languedoc-Roussillon, où là on a un temps sec, mais attention, hein, ça va souffler jusqu'à 100 km/h. On a du temps agité aussi en Corse, où là on réunit tout. De la neige à 1000 mètres, des pluies orageuses, du vent fort. En Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Auvergne, Rhône-Alpes, sur une grande partie est du pays, là on a de fortes chutes de neige en montagne. On a de la pluie, une grande partie de la journée. À l'ouest, en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, le ciel est nuageux avec des rafales à 90 km/h. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce qu'on finit toujours avec le sourire. Pays de la Loire, région parisienne, des éclaircies toute la journée. Alors, il y a quand même 2-3 régions où ça va à peu près bien. Les températures, elles sont un peu plus douces. Ce matin, on a moins 1 à 8 degrés. Cet après-midi, comptez 4 à 16. C'est quasiment comme hier.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Auf Wiedersehen Angela. Après 16 ans au pouvoir, Angela Merkel cède ce matin son siège de chancelière à Olaf Scholz. Le social-démocrate de 63 ans sera investi tout à l'heure par le Bundestag. Portrait du nouveau dirigeant dès le début de ce journal. Emmanuel Macron pour la première fois donné perdant au second tour. Valérie Pécresse élue présidente de la République. Résultat d'un sondage publié hier. À 4 mois du scrutin, la Macronie commence à s'inquiéter. Et puis en foot, pour la première fois depuis 15 ans, les Lillois peuvent décrocher une place en 8e de finale de Ligue des Champions. Les joueurs du LOSC affrontent les Allemands de Wolfsburg ce soir. Un match nul leur suffit pour rejoindre le PSG.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La fin d'une ère qui aura duré 16 ans. L'ère Merkel, la chancelière allemande, passe aujourd'hui officiellement le relais à son successeur Olaf Scholz, juste après le vote solennel du Bundestag ce matin. Mais qui est Olaf Scholz? Le portrait de cet homme de gauche avec notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl.
Pour la quatrième fois, l'Allemagne va être dirigée par un social-démocrate. Olaf Scholz était le ministre des Finances d'Angela Merkel et donc on a un peu oublié sa fibre sociale. Mais il s'est engagé à gauche dès son adolescence avec le SPD. Au moment de la réunification, avocat spécialiste du droit du travail, il défend des milliers de salariés est-allemands. Maire de Hambourg, ensuite, pendant 7 ans, il s'est battu contre la hausse des loyers. Mais il a aussi connu quelques scandales, notamment il est indirectement lié à une affaire d'évasion fiscale. Il a gagné les élections de septembre sans trop s'avancer sur les gros dossiers. Finalement, ce sont les négociations de coalition qui ont révélé ses capacités de dirigeant, selon Frank Bassner, le directeur de l'Institut franco-allemand DFI.
Il était toujours un peu taciturne, il faisait des phrases toujours très prudentes. Maintenant, là, on le voit en effet prendre sa position. Oui, Olaf Scholz semble vouloir y aller, tant mieux. Et l'équipe globale de son gouvernement a, je pense, des atouts. Et bien maintenant, il faudra travailler.
Au programme pour le chancelier Scholz, un premier conseil des ministres et très vite cette semaine, un déplacement à Paris. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et ce déplacement, ce sera vendredi, réunion prévue entre les dirigeants français, allemands, russes et ukrainiens. Objectif, garantir la souveraineté de Kiev alors que Moscou mobilise des soldats à la frontière.
Et à ce sujet, Joe Biden met en garde Vladimir Poutine. En cas d'invasion, le président américain prendra de fortes sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Le Kremlin exige de son côté des garanties sur le gel de l'expansion de l'OTAN à l'Est. Les deux dirigeants se sont entretenus hier par visioconférence dans une ambiance glaciale.
Retour en France avec un sondage Elab qui fait énormément réagir à 4 mois de la présidentielle. Il crédite Emmanuel Macron de 23% des voix au premier tour, 20% pour Valérie Pécresse. Et au second, la candidate Les Républicains battrait le président à 52% contre 48%. Louis Dragnel, quelle leçon tirer de ce sondage Elab ?
Eh bien, même si un sondage n'est qu'une photographie de l'opinion à un instant T, il y a au moins 2 enseignements. Tout d'abord, ça montre pour la première fois qu'Emmanuel Macron peut être battu au deuxième tour. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ce sondage est le reflet d'une vraie dynamique autour de la campagne de Valérie Pécresse. De ce point de vue, c'est une progression très rapide, car il y a encore quelques jours, aucun candidat potentiel de la droite n'était en mesure, dans les sondages, de remporter la présidentielle. Maintenant, tout l'enjeu pour Valérie Pécresse est d'essayer de montrer que ce sondage correspond à la réalité. Et pour Emmanuel Macron, ça change beaucoup de choses, notamment parce que Valérie Pécresse, comme lui, est à la recherche de l'électorat de centre-droit, ce qui peut d'ailleurs poser une difficulté à Édouard Philippe, chargé de séduire son ancienne famille politique. Ensuite, parce que Valérie Pécresse est une femme et ça compte dans l'opinion. Emmanuel Macron, qui rêve d'affronter Marine Le Pen au second tour, doit donc désormais adapter sa riposte en direction, cette fois, de Valérie Pécresse.
Merci Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Les Républicains qui font le tri dans leur rang, Guillaume Pelletier et Gaël Perdriau, démis de leur fonction de vice-président hier. L'un soupçonné de céder à la tentation Zemmour, l'autre pour ses propos critiques vis-à-vis d'Éric Ciotti et Valérie Pécresse.
Du jamais vu depuis plus d'un an, près de 60 000 cas de Covid en 24 heures.
Et un autre record, celui du nombre de doses de rappel injectées hier, 687 000. L'exécutif qui mise sur la vaccination, avec tout de même un déséquilibre dans les stocks. 5 millions de doses Pfizer, 20 millions de Moderna, qui est déconseillé pour les jeunes, mais préconisé pour les plus de 30 ans. Les explications de Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
Il faut dire et il faut le répéter aux gens de plus de 30 ans, il n'y a aucune contre-indication à vacciner en Moderna pour ceux qui ont eu du Pfizer les deux premières doses. Les recommandations pour le Moderna, elles sont claires. Hein. En troisième dose, il faut faire une demi-dose de Moderna. Parce qu'on s'est rendu compte, enfin on a appris que le Moderna était plus dosé que le Pfizer. Et d'une façon, il était plus efficace. Mais il générait chez les gens jeunes des effets secondaires qui étaient plus importants. Et c'est pour ça qu'il a été recommandé de ne vacciner les gens qu'au-delà de 30 ans.
Propos recueillis par Céline Géraud.
J-4 avant le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, car oui, il aura bien lieu.
Après le rejet hier du Conseil d'État de reporter le scrutin à la demande d'un collectif, le contexte sanitaire ne fait pas obstacle au déroulement du vote. Référendum suivi de près par Paris, mais aussi par Pékin, car le territoire représente un point stratégique dans la zone indo-pacifique. Le reportage de notre envoyé spécial en Nouvelle-Calédonie, Caroline Baudry.
Dans l'hypothèse d'une accession à l'indépendance, l'ogre chinois ne ferait qu'une bouchée de la petite Nouvelle-Calédonie, et de ses 270 000 habitants.
Le député calédonien Philippe Gomez se souvient de cette visite en 2017. L'ambassadeur de Chine en France, en déplacement longue durée, une semaine ici, juste avant le premier référendum sur l'indépendance.
Il avait fait le tour du pays avec un message très simple. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à nous demander. Et puis, on peut vous amener 300 000 touristes, vous savez. Par contre, il va falloir construire des hôtels ici pour des Chinois, avec des entreprises chinoises qui les construisent, avec des employés chinois dedans.
Ces approches n'aboutissent pas grâce à la protection de la France, dernier rempart à la stratégie chinoise d'accaparement dans la zone indo-pacifique, explique Bastien Vandendijk, analyste en relations internationales.
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, Salomon, Vanuatu, ce sont que des satellites chinois. Il ne lui en manque qu'un seul pour terminer ce collier de perles, c'est la Nouvelle-Calédonie, ce qui lui permettrait d'avoir une présence géostratégique, une présence militaire derrière les lignes de pression américaines.
Présence militaire et économique selon lui, alors que l'île détient un quart des réserves mondiales de nickel. Nouméa, Caroline Baudry, Europe 1.
Et un collectif de 12 maires de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie appelle les habitants à voter ce dimanche à travers une lettre ouverte estimant qu'il s'agit d'un rendez-vous avec l'histoire.
On termine avec le foot et si Lille rejoignait le PSG en 8e de Ligue des Champions.
Paris a dominé Bruges hier soir 4 buts à 1 et les Lillois sont tout proches de la qualification. Ils jouent ce soir leur dernier match des phases de groupe à Wolfsburg. Coup d'envoi 21h. Cyril Delamorinerie, un nul pour le LOSC et c'est le ticket assuré pour les 8e.
Oui, 15 ans après avoir affronté Manchester United, Lille peut rejoindre pour la deuxième fois de son histoire les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Lillois sont déterminés. Ils restent sur 7 matchs sans défaite. Ils ont battu leurs deux derniers adversaires en Ligue des Champions. L'équation, elle, est simple. Lille ne doit pas perdre. Sinon, ce sera au pire la Ligue Europa. La tentation de défendre pour décrocher un nul est grande, mais l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec est ambitieux.
J'ai pas envie qu'on soit dans le calcul, j'ai pas envie qu'on soit dans la gestion. J'ai envie qu'on se focalise sur le match qu'on a à jouer, faire un gros match avec une grosse force collective. C'est ça le plus important et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer.
Lille pourra notamment s'appuyer sur Jonathan David, le redoutable attaquant canadien, marqué plus de buts en Ligue 1 en 2021 que Kylian Mbappé. En face, Wolfsburg connaît une période de vache maigre, 8e seulement du championnat allemand, 3 défaites de suite, un entraîneur récemment limogé. Mais attention au loup qui dort. D'autant que les Lillois, eux, n'auront pas leurs supporters pour les soutenir. Les fans nordistes ne sont pas autorisés à se rendre en Allemagne en raison d'une flambée de cas de Covid-19 outre-Rhin.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1 est suivi en direct et en intégralité Wolfsburg-Lille ce soir en Ligue des Champions à partir de 20h dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau et toute son équipe.
On n'y manquera pas. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h09, l'heure des courses sur Europe 1. C'est le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 607 King Shermer. Entraîné en Hollande, il fait partie des meilleurs trotteurs de sa génération. Et force est de reconnaître qu'à chacune de ses incursions à Vincennes, il a rempli son contrat, ne terminant jamais plus loin que 4e en 3 tentatives. En constant progrès à chacune de ses sorties, il pourrait donc bien, pour son retour à Vincennes, remporter sa première victoire en France. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 7, King Shermer.
Le numéro 7, c'est noté. Merci Thierry Léger. Et à tout à l'heure pour les pronostics du Quintet. Vous restez avec nous sur Europe 1. Le pressing arrive dans moins d'une minute.
Les articles qui ont attiré notre attention ce matin au menu. Les classiques de la table du réveillon à l'heure du réchauffement climatique. Un mystérieux cube sur la face cachée de la Lune et cherche Père Noël désespérément. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11, bonjour, bon réveil sur Europe 1. C'est le pressing et comme chaque jour, nous sommes trois autour de cette table pour décortiquer les journaux du matin. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, Martin. Bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux. Olaf Scholz, les défis du nouveau chancelier, titre Le Figaro, alors que le ministre des Finances d'Angela Merkel sera élu aujourd'hui à la tête d'une coalition inédite alliant les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Un tout autre sujet à la une d'aujourd'hui en France, la French Touche, titre Le Quotidien à l'occasion de la sortie du 4e volet de la comédie familiale. Et puis, encore un effort, c'est ce que demande l'équipe aux joueurs du LOSC qui affrontent ce soir les Allemands de Wolfsburg en Ligue des Champions. On l'a dit dans le journal, pour la première fois depuis 15 ans, les Lillois peuvent décrocher une place en 8e de finale. Un match nul leur suffirait. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
On va faire des courses pour vos repas, des fêtes, des grands classiques de nos tables de Noël à l'épreuve du réchauffement climatique. Petit bilan ce matin du Parisien aujourd'hui en France qui pose finalement la question. question, cette question épineuse, va-t-on devoir se passer de certains mais de fait, ou pire, les voir disparaître ces 20 ou ces 30 prochaines années? Le chocolat, la clémentine, le champagne, les coquilles Saint-Jacques, eh bien non. Autant vous le dire tout de suite, hein, vous apprécierez d'autant plus ce qu'on va se dire dans la minute qui vient. Alors commençons par la Saint-Jacques. Figurez-vous que le coquillage s'adapte bien mieux. Il apprécie le réchauffement climatique. Il se plaît dans les eaux de la Manche qui a gagné presque 1 degré en 15 ans. Alors il aime quand même ce réchauffement climatique jusqu'à un certain point quand même, évidemment. Concernant le chocolat, le quotidien cite le tabloïd britannique le Daily Mail qui en 2018 affirmait qu'il n'y aurait plus de chocolat en 2030. Impossible, répond un responsable d'une entreprise de cacao équitable. En revanche, on doit s'inquiéter plutôt de la déforestation pour Noël, donc préférer des labels qui se montrent exigeants en la matière. C'est autour de la clémentine corse. On craint des fruits de moins en moins acides. En gros, plus il fait chaud, plus la clémentine sera sucrée. Mais les producteurs de l'île de Beauté sont très vigilants sur ce point, donc pas d'inquiétude. Ce qu'on remarque en revanche, c'est que la récolte arrive 2 semaines plus tôt dans l'année, début novembre au lieu de mi-novembre. Quant au champagne alors, eh bien, allons-nous finir chancelant après 2 coupettes à cause d'un taux d'alcool plus élevé? Eh bien non, encore. La température augmente, certes, pas le taux d'alcool. Il n'empêche que les vignerons s'organisent et des variétés de raisins capables de supporter un climat plus chaud sont en train d'être créées. Donc pas d'inquiétude non plus. Voilà, tout va bien. Quel impact le réchauffement climatique a sur notre table de Noël? C'est dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Merci Ombline. Martin, à vous.
Oui. Avec un mystère ce matin, y a-t-il une maison sur la Lune? Ce n'est pas une plaisanterie, hein, c'est très sérieux. C'est la mission chinoise Change4 qui a pour objectif d'explorer la face cachée de notre satellite qui vient de relancer la machine à fantasmes. Un petit rover de cette mission, a baptisé U22. Ce n'est pas un hommage au groupe de rock.
U22.
Mais ce petit robot a pris...
U22.
C'est peut-être... ce petit robot a pris une photo très étrange sur laquelle on peut voir à l'horizon une forme cubique quasi parfaite qui rappelle celle d'une maison. Forcément intrigué, hein, les scientifiques chinois lui ont trouvé un nom, la cabane mystérieuse. Cabane qui se trouverait aux marges du cratère Von Karman que le petit rover était en train d'inspecter de fond en comble. Une découverte qui fait frissonner les fans de science-fiction. D'ailleurs, les internautes s'en sont donné un cœur joint sur Internet, certains imaginant un Starbucks ou un McDo lunaire. Et oui, ils sont partout. Les Chinois ont même émis l'hypothèse que cette mystérieuse cabane pourrait abriter des extraterrestres qui l'auraient bâtie après le crash de leur vaisseau spatial.
Découvert par U22, c'est Véronique et Davina.
Merci.
Merci Fabrice Lafitte, notre réalisateur qui a remis les pendules à l'heure. Plus rationnellement, Martin, comment les scientifiques expliquent la présence de cette forme?
Eh bien, selon le site spécialisé space.com, il s'agit certainement d'un amas de gros rochers, un tas si vous préférez, apparu après l'impact d'une météorite à la surface de la Lune. Et si la forme semble si géométrique, c'est sûrement que l'objet est tellement loin que ses contours ne sont pas très précis. Alors ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais on devrait assez rapidement en avoir le cœur net, puisque le rover U22 que vous adorez, on va aller explorer de près cette cabane mystérieuse. C'est sa mission pour les 2 ou 3 prochains jours lunaires, mais nous n'aurons pas la réponse tout de suite, hein, parce que 2 ou 3 jours sur la Lune, eh bien, ça fait 2 à 3 mois sur Terre. Donc rendez-vous au février, hein, pour l'annonce de ce premier McDo lunaire. Un rover chinois observe un bien étrange cube sur la Lune, c'est à lire sur le site Slate.
Article lunaire, donc merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article de West France qui lance ce matin une alerte rouge. Le monde manque de Père Noël. Je répète, le monde manque de Père Noël. Et oui, à 2 semaines seulement du réveillon, c'est la panique. Notamment aux États-Unis où à cette période de l'année, chaque centre commercial qui se respecte propose à ses plus jeunes clients de poser fièrement sur les genoux d'un Santa Claus plus ou moins réussi ou éveillé. Il est en petite forme, ouais. Le monsieur là. À l'image en fait de sa profession qui, comme beaucoup d'autres, souffre d'un manque cruel de main-d'œuvre depuis le début de la pandémie.
Alors c'est quoi le problème? Les salaires ne sont pas assez attractifs.
Alors bien au contraire, c'est bien payé Père Noël, figurez-vous. $30 de l'heure minimum et jusqu'à 150 pour les Santa Claus les plus expérimentés. Il faut en effet avoir beaucoup de patience pour contenter des centaines d'enfants. Et puis il y a le lourd costume qui tient chaud, la fausse barbe qui gratte. Bref, ce n'est pas un métier facile. Et ça l'est encore moins à l'ère du Covid, virus qui touche en priorité les plus de 50 ans, obèses ou ayant de l'embonpoint. Ça ne vous rappelle rien?
Avec une barbe blanche.
Voilà, ajoutez à cela des enfants qui actuellement sont le moteur de la reprise épidémique. Et vous comprenez pourquoi on ne se bouscule pas dans les agences de Père Noël, d'autant que nombre de Santa Claus professionnels aux États-Unis et au Canada sont décédés ces derniers mois en raison de la pandémie. Du coup, certains centres commerciaux ont trouvé une parade dans l'air du temps, une parade virtuelle, un Père Noël en 3D qui s'affiche sur un écran géant suffisamment grand pour que les bords n'apparaissent pas sur la photo de votre enfant qui pose à côté de ce Santa Claus fait de pixels. C'est toujours mieux que rien. En France, où la tradition du Père Noël est un peu moins répandue, on n'a pas de problème de recrutement, on est plutôt confronté à des annulations d'événements en cascade, confie une agence d'événementiel. Vous nous le racontiez hier, Omblin, les arbres de Noël en entreprise n'ont plus la cote avec la cinquième vague. Il reste toutefois une solution. Si vous voulez que votre enfant puisse voir Santa Claus avant l'ouverture des cadeaux, visiopèrenoël.com, un site internet créé par un Nantais qui propose aux bambins d'échanger avec leur barbu préféré par écran interposé. Une dizaine de professionnels du spectacle jouent le rôle de Père Noël. Il est même possible d'envoyer quelques informations sur ses enfants en amont de la conversation pour une personnalisation de l'échange. Échange enregistré que l'enfant pourra donc revivre autant de fois que souhaité.
Ça fait rêver. Après tout, on voit bien des médecins en consultant, téléconsultation désormais, alors on peut bien sûr se confier au Père Noël à distance. Tout ça, c'est très étrange. Merci beaucoup, Julien. C'est ainsi que se termine le pressing. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h18 sur Europe 1. Les principaux titres de ce mercredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Près de 60 000 cas de Covid ces dernières 24 heures, du jamais vu depuis novembre 2020. Autre record, celui du nombre de doses de rappel. Hier, 687 000 et l'exécutif tente de rassurer les Français. La campagne de vaccination va encore s'accélérer selon Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement hier. La cinquième vague met un coup au moral. On sent une fatigue, a reconnu Emmanuel Macron hier en déplacement dans le Cher. Aujourd'hui, le président se rend à Vichy. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris demande la libération immédiate de son ressortissant arrêté à l'aéroport de Roissy hier matin. Placé en rétention judiciaire par la police aux frontières, il est soupçonné d'être membre du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Et puis en Ligue des Champions, match exemplaire pour le PSG hier soir face à Bruges. 4-1 pour Paris avec des doublés de Kylian Mbappé et Lionel Messi. À suivre ce soir, Wolfsburg-Lille à 21h. Un nul suffit au LOSC pour se qualifier en 8e.
Europe 1. BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Initiative en France.
Bonjour Nassera Mekaoui.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes directrice marketing des services à Leroy Merlin, enseigne qui depuis quelques semaines s'est positionnée sur le marché de l'occasion. Vous proposez à vos clients de racheter leurs outils. Expliquez-nous.
Écoutez, en fait, nous, on est toujours à l'écoute des habitants et de l'évolution de leur mode de consommation. Et donc, l'idée, c'était de se dire qu'on leur propose en fait un service qui rachète en fait des produits dont vous n'avez plus besoin, qui dorment dans le fond de vos placards et que vous pouvez en fait remettre en circulation. Nous les rachetons, nous les reconditionnons et nous les remettrons en vente en fait dans quelques semaines.
Quels sont les outils que vous rachetez exactement ?
Alors, pour le moment, en fait, on est encore un peu en mode test. On a ouvert en fait sur une sélection d'outils que sont les perceuses, les visseuses et les perforateurs, parce qu'en fait, ce sont des outils qui sont souvent achetés au moment d'un chantier et puis finalement délaissés sur une étagère ou oubliés au fond d'une cave. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur donner une seconde vie et de leur rendre une utilité.
Comment ça se passe concrètement ? C'est en magasin ? Je peux rapporter un outil ? Vous l'évaluez ou c'est en ligne sur Internet ?
Alors, c'est un service qui est 100% digital, en fait. C'est le premier service, en fait, de rachat 100% en ligne de matériel d'outillage électroportatif. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez aller directement sur le site leroymerlin.fr. Vous rentrez, en fait, la référence de votre modèle. On va vous poser quelques questions. Est-ce qu'il est en état de marche ? Quel est son état esthétique ? Est-ce qu'il y a bien tous les accessoires ? Et en fonction, on vous propose un prix de rachat. Et si vous êtes OK, en fait, il suffit de le valider. Vous pouvez imprimer un bon d'envoi qui marche en fait avec Chronopost. Donc vous ne payez pas l'envoi et on vous envoie une carte cadeau en fait en échange.
Si j'ai un perforateur par exemple dont je ne me sers jamais et que je l'ai acheté environ 100 euros, vous pouvez m'en proposer combien au maximum, j'entends ?
En fait, aujourd'hui, on a des grilles. En fait, c'est un peu comme l'Argus. En fait, on fait confiance, on travaille avec un acteur du marché qui s'appelle Recommerce. Et c'est très précis, en fait. Ça dépend vraiment des modèles, depuis combien de temps vous l'avez dans votre placard, est-ce qu'il y a tous les accessoires qui sont présents, etc. Donc, c'est assez précis. Donc là, comme ça, avec ces éléments-là, je ne peux pas vous répondre.
Ces outils sont donc reconditionnés, remis en état, remis quasiment à neuf. Et donc, pour boucler la boucle, vous les remettez dans le circuit. On peut les trouver en magasin ou là encore, c'est uniquement en ligne ?
Alors là encore, c'est uniquement en ligne pour le moment, pour faciliter les choses. Et donc, un autre partenaire avec qui on travaille là-dessus, qui s'appelle Cordon Electronics, en fait, reconditionne ses produits et les mettra en vente sur notre marketplace de produits.
Avec la promesse d'une réduction minimum de 20%, hein, c'est bien ça, par rapport au prix du neuf ?
Tout à fait, tout à fait.
C'est l'essor de Vinted pour la mode et back market pour l'informatique qui vous a donné envie de vous lancer dans la seconde main ?
J'allais dire oui et non, c'est-à-dire oui parce qu'en fait, en ce moment, ça correspond aux envies et aux besoins des habitants, mais c'est surtout parce que nous sommes engagés, nous, depuis longtemps, sur la durabilité des produits. Vous savez, en fait, on a été la première enseigne dans le monde du bricolage à proposer en fait un SAV en magasin. Donc nous, en fait, dans notre ADN, en fait, faire durer la vie des produits, c'est vraiment une motivation et quelque chose en fait qu'on recherche dans beaucoup de services qu'on propose. On propose donc du service après-vente, mais aussi de l'autoréparation. Vous pouvez en ligne, par exemple, si votre produit est en panne, diagnostiquer vous-même votre panne, trouver la pièce, la commander, vous la faire livrer et on vous donne l'accès à des tutos de réparation pour réparer vous-même.
Et puis vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai déjà vu dans l'un de vos magasins un espace dédié pour des produits légèrement endommagés ou qui ont été rapportés.
Oui, tout à fait. Alors c'est un espace qui aujourd'hui s'appelle, parce qu'il serait dommage de les jeter, en fait, ça permet de remettre en vente des produits qui sont un petit peu abîmés, ou par exemple il y a un lot de 3 ou 4 et puis il y a un produit qui est abîmé, on ne peut pas le laisser dans le circuit. Et donc ça permet de ne pas jeter ces produits et bien de les valoriser. C'est des produits qui sont encore fonctionnels, utiles. Je vais même vous donner une petite info qui est toute nouvelle. On vient de renommer en fait ces éléments et ça va s'appeler les presque parfaits à partir du mois de janvier 2022.
Et on peut imaginer que ces espaces presque parfaits, donc vous allez les développer, les généraliser à tous les magasins ?
Exactement. C'est notre ambition, en fait, pour le premier trimestre 2022, d'en avoir dans l'ensemble de nos magasins Leroy Merlin en France. Tout à fait.
Merci beaucoup, Nassera Mekaoui, de nous avoir présenté tous ces services et notamment ce dernier en date, racheter les outils dont on ne se sert pas, les reconditionner, puis les revendre moins cher. Voilà qui est dans l'air du temps. Très bonne journée à vous.
Bonne journée à vous aussi. Au revoir.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, on jette un œil sur le programme de la prochaine demi-heure, Omblin.
C'est l'événement cinéma de cette fin d'année. Steven Spielberg qui non seulement s'essaye à la comédie musicale, mais en plus, il se mesure à un monument.
Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria.
Ça valait le coup d'attendre. West Side Story, le remake. Ansel Elgort qu'on entend qui reprend le rôle de Tony 60 ans après le film culte de Jerome Robbins et Robert Wise. C'est le choix de Laurie Choleva.
Nous sommes le 8 décembre et à Lyon, le 8 décembre, Omblin, c'est la fête des Lumières.
Ah oui, l'occasion de déambuler dans la ville la nuit venue pour découvrir des projections sur des sites emblématiques, des structures lumineuses impressionnantes. La féerie s'empare de Lyon. Pendant 4 jours, l'exécutif a autorisé la tenue de la fête des Lumières avec, je cite, des règles extrêmement strictes. On en parle dans un quart d'heure avec Audrey Enoch, l'adjointe aux grands événements de la ville de Lyon.
La météo avec vous, Anissa Dadi, et malheureusement, c'est très agité aujourd'hui.
Oui, c'est pluvieux, c'est venteux sur une grande partie du pays. Donc ce matin, entre la Franche-Comté et la Côte d'Azur, hein, tout le long des frontières de l'Est, en passant par les Alpes, évidemment, on a beaucoup d'averses dès ce matin, avec de la neige sur les Alpes à 700 mètres d'altitude et un risque important d'avalanche. Soyez très prudents. Au bord de la Méditerranée, on a des éclaircies qui vont se développer au fil des heures, mais ce matin, c'est gris, c'est venteux, et puis on a du vent qui souffle fort du côté du Languedoc-Roussillon. Là, la tramontane pourra atteindre les 90 km/h. En Corse, on a des pluies soutenu ce matin, ça va se dégrader dans l'après-midi avec l'arrivée des orages et du vent fort. Dans le sud-ouest, c'est très pluvieux aussi aujourd'hui, hein, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. On a du grésil sur la Nouvelle-Aquitaine du côté de la région bordelaise. Et puis sur les côtes de la Manche, là aussi on a une journée agitée avec du vent, de la pluie, des orages qui éclatent sur le littoral de la Manche. Il n'y a qu'un endroit. Vraiment, on a un microclimat sur les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la région parisienne, où là, le temps reste sec avec de belles éclaircies. On a 1 degré ce matin à Strasbourg, 2 à Saint-Étienne, 3 à Clermont-Ferrand, 4 à Paris, Lille, Lyon, Besançon et 8 pour Ajaccio.
Merci Anissa Dadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Paris crame-t-il la caisse ? Un collectif d'associations demande la mise sous tutelle de la ville dont les comptes ont plongé dans le rouge. La dette atteint 7 milliards d'euros. À 2 semaines de Noël, l'inquiétude des professionnels du vin, faute d'étiquettes réglementaires, des centaines de milliers de bouteilles dorment dans les hangars. Pas sûr que l'on puisse trinquer pour les fêtes. Ce n'est pas un dialogue de sourds, mais ça y ressemble. L'entretien Biden-Poutine n'a pas permis de désamorcer les tensions sur le dossier ukrainien. Et puis la victoire du PSG, 4 buts à 1 face à Bruges en Ligue des Champions. Les Parisiens se sont rassurés.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. En pleine campagne pour la présidentielle, l'affaire tombe mal pour Anne Hidalgo. Un collectif d'associations vient de saisir la Cour régionale des comptes pour demander une mise sous tutelle de la ville. Procédure rarissime, mais l'endettement de la capitale l'exige, affirment les plaignants. 7 milliards d'euros, c'est le montant de la dette parisienne. Une bulle qui gonfle à vue d'œil. Alexandre Chauveau.
C'est une dette colossale, passée de 4,6 à plus de 7 milliards d'euros en 5 ans, qui a poussé 5 associations citoyennes à engager une action en justice. L'annonce intervient alors que l'État multiplie les signaux d'alerte et que l'opposition au Conseil de Paris demande précisément cette mise sous tutelle. Mais la démarche n'a rien de politique, assurent les plaignants, qui dénoncent également la dégradation du patrimoine et l'enlaidissement général de la ville. Maître Patrick Tabet, représentant du collectif, portera plainte début janvier.
Que ce soit la dégradation du patrimoine, que la gestion financière de la ville, c'est aujourd'hui arrivé à un tel stade que ça justifie que cette ville soit mise sous tutelle.
Autre reproche fait à Anne Hidalgo et à son équipe, l'opacité autour des notes de frais, ainsi que le sort réservé aux commerçants, dont certains auraient perdu près de 30% de leur chiffre d'affaires. En cause, la suppression des places de stationnement et l'augmentation des embouteillages liés à la création des pistes cyclables. Si l'action engagée obtenait gain de cause, elle ferait de Paris seulement la 6e ville placée sous ce type de contrôle et aurait des conséquences désastreuses pour Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Il faut toujours rester prudent quand on évoque les sondages avant une présidentielle, mais c'est une enquête qui fait beaucoup de bruit. Valérie Pécresse, donnée gagnante au second tour face à Emmanuel Macron.
58-42, c'est le score qu'obtiendrait la candidate des Républicains face au président sortant. Sondage de l'Institut Elab pour l'Express et BFM. Valérie Pécresse passerait le cap du premier tour avec 20% des voix, soit une hausse de 11 points. Quant à Marine Le Pen, elle reculerait au troisième rang avec 15% des intentions de vote, juste devant Éric Zemmour. Aucun candidat de gauche ne passerait la barre des 10%. Le premier d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon, est crédité de 8%.
La crise sanitaire, le variant Omicron ne serait peut-être pas si dangereux que ça.
Il faudra encore attendre 2 semaines au moins pour être fixé, dit Anthony Fauci, le scientifique américain et conseiller spécial de la Maison Blanche, est quasiment certain qu'Omicron ne cause pas de cas plus graves que Delta. Quant à l'OMS, elle pense que les vaccins actuels resteront efficaces.
En France, les cas de contamination continuent de s'envoler.
Plus de 59 000 enregistrés hier. Il faut remonter au printemps dernier pour retrouver des niveaux similaires. Précision toujours utile, cas positif ne veut pas dire malade forcément. La campagne pour la troisième dose, elle, accélère aussi. Près de 12 millions de Français l'ont déjà reçu. Rien qu'hier, près de 700 000 injections ont été effectuées.
On ne sait pas s'il y aura de la neige à Noël. Tout dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. On ne sait pas non plus, en revanche, s'il y aura du vin à table et c'est très sérieux.
On reparle de pénurie, mais cette fois c'est une pénurie dont nous sommes les seuls responsables. Ce n'est pas la production de vin en tant que telle qui pose problème, il est bien en bouteille, mais avant de le distribuer, il faut l'étiqueter. Et c'est là que ça coince. La petite Marianne, cette capsule réglementaire est en rupture de stock. Explication Aurélien Fleureau.
Tout est parti d'un incendie dans l'une des deux principales sociétés qui fabriquent des Marianne, ces petites capsules qui recouvrent les bouteilles de vin en France. Pour faire simple, elles permettent de garantir que tout est en règle pour leur commercialisation. Sauf qu'avec une usine à l'arrêt, eh bien il y a pénurie et les bouteilles ne peuvent plus arriver dans les rayons, comme le regrette Augustin Chazal, directeur de la Fédération française des vins d'apéritifs.
En l'absence de Marianne, les contraintes administratives, les documents d'accompagnement, je dirais la paperasserie administrative, rend l'opération pratiquement impossible. possible, notamment auprès de la grande distribution. Alors là, on commence à avoir des remontées de chiffres. On parle en centaines de milliers de bouteilles qui, pour l'instant, ne sont pas produites. Donc, les défauts d'approvisionnement vont se faire sentir dans les semaines qui viennent, si une solution n'est pas trouvée rapidement avec le gouvernement.
Les petits producteurs sont beaucoup moins impactés, mais les grands noms du secteur espèrent une dérogation, une expérimentation, le temps de passer les fêtes, avant d'ensuite trouver une solution plus moderne et dématérialisée. Cette obligation est d'ailleurs une exception française sans équivalent dans les autres pays européens.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
5h35 sur Europe 1, on passe à l'actualité internationale et on ne peut pas dire que la tension soit redescendue d'un cran dans le dossier ukrainien.
Américains et Russes campent sur leur position. Le face-à-face vidéo entre le président Joe Biden et son homologue Vladimir Poutine n'a pas vraiment permis de désamorcer la crise. Du coup, Washington renouvelle son avertissement à Moscou. Il y aura des représailles en cas d'invasion de l'Ukraine, Alexis Guilleux.
Oui, c'est ce qui ressort de ces deux heures de discussion. De lourdes sanctions économiques et financières attendent la Russie si elle envahit l'Ukraine. Sur ce point, la Maison-Blanche n'a pas donné de détails, soulignant qu'elle préfère ne pas négocier en public avec Moscou. Joe Biden appelle à une désescalade et au retour à la diplomatie, mais Jake Sullivan, conseiller à la sécurité du président, l'assure. Les États-Unis aideront leurs alliés en Europe de l'Est qui en font la demande.
En cas d'invasion de l'Ukraine, il est évident que nos alliés en Europe de l'Est, les Pays-Baltes, la Roumanie, la Pologne et d'autres pays seront inquiets pour leur propre sécurité et l'intégrité de leur territoire. Nous nous attendons à ce qu'ils sollicitent des capacités militaires et les États-Unis chercheront à répondre favorablement à leurs demandes.
Alors cette réunion a été utile selon la Maison-Blanche. Elle a permis à Joe Biden de réitérer la position de Washington et des Occidentaux. L'Ukraine est un pays souverain, libre de rejoindre l'OTAN si elle le souhaite, fameuse ligne rouge posée par Vladimir Poutine. Après avoir fait le point avec ses alliés européens dans la soirée, Joe Biden s'entretiendra dès demain avec son homologue ukrainien.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, tient la crise ukrainienne sera au centre de la rencontre entre Emmanuel Macron et le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, prévu après-demain à l'Elysée.
Le foot, la Ligue des Champions, Paris s'est fait plaisir et a fait plaisir hier soir face à Bruges.
Match de gala pour cette dernière journée de la phase de groupe. Victoire 4-1 des Parisiens hier soir. 2 buts de Kylian Mbappé, 2 buts de Lionel Messi. Paris s'est rassuré, Cédric Chasseur.
Oui, on se demandait quel visage allait montrer le PSG face à Bruges dans un match sans enjeu. Eh bien, le club de la capitale a répondu d'entrée de jeu en étouffant son adversaire. Résultat, 3-0 à la pause. On a vu des occasions à l'appel, du rythme, un effort collectif. Et il y a une raison à cela, selon Mauricio Pochettino.
La différence, c'est que les joueurs étaient beaucoup plus connectés. On travaille sur des mécanismes parce que c'est important de trouver un équilibre. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, il y en avait un. Dans un processus, il y a parfois un déclic et j'espère que c'est le point de départ pour continuer de s'améliorer.
Seul bémol, il est de taille, c'est que cela n'a duré que 45 minutes. La seconde période a été plus laborieuse et c'est ça qui est frustrant avec cette équipe capable du meilleur comme du pire. Et le match de ce soir en est le parfait exemple. Reste que Paris a montré nettement plus de choses positives face à Bruges que lors des dernières sorties. On verra dimanche avec la réception de Monaco en championnat si cela est fait pour durer.
Le PSG qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il pourrait être rejoint par Lille qui se déplace à Wolfsburg. Un match nul suffit aux Lillois ce soir. Soirée spéciale Ligue des Champions dès 20h sur Europe 1.
Aux côtés de Lionel Rousseau et de son équipe, c'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est une nouvelle fois à Vincennes que va se courir ce Quintet. 15 trotteurs sur la distance de 2100 mètres avec un favori solide. Le numéro 11, Vicky Lakshmi. Facile vainqueur lors de son unique tentative à Vincennes l'été dernier, sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi. Avec Ingo, le numéro 9, un Suédois qui reste sur 2 bonnes sorties à Vincennes et qui s'annonce ici comme à coup sûr absolu à l'arrivée. Attention au numéro 2, Majestic Man, irréprochable chez lui en Suède et pour lequel son entourage n'effectue certainement pas un aussi long déplacement, non sans avoir quelques certitudes. Ensuite, je vous recommande les numéros 5, Fille du Chêne, qui excelle sur ce tracé de vitesse, 4, Fiesta du Belvert, idéalement placé en première ligne derrière l'autostart, 10, Fée de Rangeval, irréprochable, pour laquelle son entraîneur Emmanuel Vérin en espère une nouvelle fois un excellent comportement, avec sa compagne d'entraînement, le numéro 15, Finn Pearl of Love. Enfin, le numéro 12, Ivory di Quattro, complétera ma sélection. Mon pronostic, 11, 9, 2, 5, 4, 10, 15 et 12.
Et tous ces pronostics, vous les retrouvez dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et les récits de Pauline Jacquot. Bonjour Pauline.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Il y a 30 ans, trois présidents déclaraient la mort de l'URSS. C'était le 8 décembre 1991, très exactement. Boris Eltsine, à la tête de la Russie, signait avec les présidents de Biélorussie et d'Ukraine un accord créant une communauté d'États indépendants. Concrètement, c'était la fin de l'Union soviétique, la fin d'un empire qui a régné sur une très large partie du monde. Retour avec vous, Pauline, sur cet événement inimaginable encore quelques années auparavant.
L'énorme choc de la création d'une communauté des États slaves n'a toujours pas été digéré à Moscou. Voilà les premiers mots du correspondant d'Europe 1 à l'époque, Jean-Yves Huchet, lorsqu'il prend l'antenne le 9 décembre 1991, le lendemain de la signature du traité de Minsk au cœur de la forêt de Belovège.
Le seul maigre, très maigre contre-feu allumé ce soir par la présidence soviétique tient en quelques mots maladroits du service de presse du Kremlin. Les trois républiques slaves, y dit-on, en sont pour l'instant à la déclaration d'intention et non pas au fait accompli. Les proches de Gorbatchev, de leur côté, affirment qu'il n'a absolument pas l'intention de démissionner, mais cette éventualité est évidemment présente à tous les esprits.
La Russie, l'Ukraine, la Biélorussie. Quelques jours plus tard, 11 autres pays décident de mettre un terme à l'État fédéral. Ça y est, c'est terminé. Après 69 ans d'histoire, l'URSS n'existe plus. Mikhail Gorbatchev est à la tête d'un empire sans État, sans pouvoir. Il démissionne le 25 décembre 1991.
L'Union soviétique et Mikhail Gorbatchev, Pauline, n'ont pas résisté aux volontés nationales.
Les peuples du Caucase commencent à se rebeller contre Moscou dès 1988. Le vent de liberté souffle ensuite sur les pays baltes. La Lituanie déclare son indépendance en mars 90, désir violemment réprimé. En janvier 91, Pierre Botchev raconte l'arrivée des chars soviétiques à Vilnius, la capitale.
L'armée brutalement passée à l'offensive en plein milieu de la nuit. La tour de télévision, le centre de télévision, le centre de radio sont tombés. Il ne reste guère que le Parlement à Vilnius comme symbole de l'indépendance.
14 morts. Mikhail Gorbatchev finira par retirer son armée. Moscou a perdu et reconnaît quelques mois plus tard la sécession de la Lituanie. Parallèlement, l'armée rouge quitte progressivement la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'ancienne RDA.
Et puis Pauline, un événement va définitivement écarter Gorbatchev du pouvoir et tuer l'URSS. C'est le putsch de Moscou.
Gorbatchev n'a déjà pas l'opinion publique en sa faveur. Un certain Boris Yeltsin commence à s'imposer en Russie. Il a été élu premier président du pays le 12 juin 91 et c'est lui, deux mois plus tard, qui va ressortir vainqueur de ce putsch. En août, les conservateurs communistes tentent de prendre le pouvoir. Boris Yeltsin se joint au peuple qui résiste. Le coup d'État échoue. Le 22 août 91, le président russe est dans la rue, debout sur un char.
La foule est parcourue par un énorme frémissement et ça se transforme effectivement en ovation. Toutes les 10 minutes, oui, ou toutes les 2 minutes.
Et on a vraiment l'impression, Jean-Yves, que Boris Eltsine est en train d'asseoir son pouvoir.
Là, dans l'état actuel des choses, il est dans une position de force absolument incroyable. Il a derrière lui tout le peuple de Russie, il a derrière lui une bonne partie de l'armée, et Gorbatchev apparaît bien évidemment comme un président diminué, puisqu'il ne doit sa libération qu'à Eltsine.
C'est le coup de grâce. Gorbatchev s'efface derrière le président Yeltsin. La Russie prend le pas sur l'URSS. Après une lente agonie, le traité de Minsk signe la mort de l'Union soviétique. Mikhail Gorbatchev démissionne. C'est la fin d'un mythe. On retire le drapeau rouge. C'est désormais celui de la Russie qui flottera sur le Kremlin.
C'était le jour où. Merci beaucoup, Pauline Jacquot. Et à demain.
Il est 5h43. Dans un instant, cap sur Lyon pour la Fête des Lumières.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h44, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Après une édition drastiquement réduite en 2020, la Fête des Lumières est de retour aujourd'hui. La ville de Lyon renoue avec la tradition du 8 décembre. 31 œuvres réparties sur 27 sites seront visibles le soir et ce jusqu'à samedi. Nous sommes en Blin avec Audrey Hénoc, adjointe en charge des finances et des grands événements à la ville de Lyon.
Bonjour Audrey Hénoc.
Bonjour.
Alors un mot pour commencer sur la conférence de presse du Premier ministre lundi, lorsque Jean Castex a annoncé que la Fête des Lumières aurait bien lieu, mais avec, je cite, des règles extrêmement strictes pour les endroits où on se regroupe pour consommer. Vous, mais aussi les habitants de Lyon et les visiteurs ont dû pousser quand même un ouf de soulagement.
Alors on avait travaillé avec la préfecture main dans la main depuis une dizaine de jours.
Donc on avait prévu toutes les mesures pour renforcer les gestes barrières. Donc on était tout de même assez confiants dans les annonces du Premier ministre. Mais bon, ceci dit, on n'est jamais à l'abri en effet d'une décision qui aurait été dans une extrême prudence et ne nous aurait pas permis de tenir la fête des Lumières.
Comment organiser un si grand événement dans un contexte actuel ? C'est un sacré puzzle.
C'est un sacré puzzle, mais la grande majorité des œuvres seront présentées en plein air. Ça fait quand même un an et demi qu'on vit avec le virus, avec un taux de vaccination important. Donc c'est important de pouvoir continuer à vivre, à faire des événements en étant en plein air, masqué. Le challenge était en fait tout à fait tenable. Mmh. Et on a 5 établissements recevant du public qui sont clos, mais dans lesquels le pass sanitaire sera obligatoire, comme on en a maintenant l'habitude. En réalité, les annonces du Premier ministre et le travail préalable qu'on a fait dans la journée nous ont conduit à interdire, parce que c'est le préfet bien sûr qui prendra un arrêté, mais pour interdire la vente et la consommation d'alcool et aussi d'alimentation et de consommation d'alimentation dans l'espace public. Afin d'être sûr que pendant toute la fête des Lumières, les visiteurs gardent bien leur masque sur le nez et sur la bouche.
Alors parlons-en de cette fête des Lumières, de ce que nous allons voir. Donc vous l'avez dit, l'événement propose des installations lumineuses grandioses, voire féeriques à ciel ouvert, des projections monumentales sur les façades des bâtiments. Le thème pour cette 21e édition est la nature. Alors comment cela se traduit ? Qu'est-ce qu'on va voir exactement ?
Il n'y a pas vraiment de thème qu'on a imposé, nous, en tant que direction artistique. Ce qui a été mis en avant, c'est surtout la création, le renouvellement avec 19 nouvelles artistes qui exposent à la Fête des Lumières sur 31 œuvres. Par contre, c'est vrai, vous avez raison, que les artistes, dans leurs propositions, font la part belle à des thèmes autour de la nature, des animaux, de la flore. Et je pense que ça reflète tout simplement la sensibilité des artistes pour les questions de biodiversité, de protection de la nature.
Comme cette vague sur la place Bellecour, on voit les photos sur Internet avant de la découvrir in situ, à la nuit tombée, avec ses écailles, c'est absolument grandiose.
Oui, ça va être magnifique. La place Bellecour, ça va être une œuvre grandiose. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont être très belles. Dans les grandes œuvres, évidemment, la place des Terreaux, qui est investie comme chaque année par un mapping sur les 4 pans de cette place, avec le lapin dans la lune d'un conte mexicain. Mais aussi les parcs, avec le parc de la Tête d'Or, le parc Blandan, pour la première fois sur Lyon, un nouveau parc qui est investi d'une fête foraine à hauteur d'enfant, tout en lumière et en son, mais aussi beaucoup d'autres œuvres. Je ne pourrais pas toutes les résumer en quelques mots.
Vous l'avez évoqué, 19 nouveaux artistes, un formidable terrain de jeu pour des talents émergents. Vous souhaitiez offrir une vision toute neuve, finalement, de cette fête des Lumières, avec un autre regard offert par ces artistes.
Oui, grâce à ce renouvellement, grâce à la jeunesse aussi. Parce qu'on a une place, la place Satonnet, qui est dédiée aux étudiants dans les écoles d'art et de création artistique qui exposeront. Des jeunes artistes aussi professionnels déjà, mais tout jeunes, qui exposeront sur la gare Saint-Paul. Mais la nouveauté de la Fête des Lumières 2021, c'est surtout de faire plus de place au public et de permettre à certains publics, tels que les enfants, de pouvoir mieux bénéficier de la fête, mais également aux personnes âgées, puisque l'ensemble des œuvres seront filmées et reprojetées dans des casques de réalité virtuelle mis à disposition de tous les EHPAD de la ville.
Donc le parc Blandan, pour les enfants, vous l'avez dit, c'est la première fois, avec des horaires adaptés de 18h à 22h. Et aussi le parc de la Tête d'Or. Le parc de la Tête d'Or, c'est aussi quelque chose de nouveau. On va pouvoir se balader en pleine nuit et puis découvrir une rivière, des poissons, un mystérieux serpent.
Oui, voilà. Ce qui est nouveau, c'est surtout d'avoir 3 œuvres dans le parc. Donc, on va beaucoup plus loin que par le passé. On est accueilli par un serpent, Hydra, qui sort du lac. Et ensuite, par une forêt, une farandole de lumière dans le sous-bois pour arriver jusqu'à une dernière œuvre créée en régie par la ville de Lyon, qui s'appelle Ricochet. Et où, voilà, le jeu d'enfant, le ricochet, et ce thème est repris sur un espace naturel qu'est le lac et sa frondaison naturelle derrière. Donc je pense que ça va être 3 belles œuvres de cette Fête des Lumières.
Et vous confirmez ainsi que la Fête des Lumières est un événement familial. Merci beaucoup Audrey Hénoc d'avoir accordé à Europe 1 ces quelques minutes ce matin. Je rappelle que vous êtes adjointe en charge des finances et des grands événements de la ville de Lyon et la traditionnelle Fête des Lumières commencera ce soir dès 19h et c'est jusqu'à samedi. Merci.
Merci, au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi, Alban Le Prince.
Olaf Scholz devient chancelier aujourd'hui, juste après le vote du Bundestag ce matin. Le social-démocrate succède à Angela Merkel après plus de 16 ans passés à la tête de l'Allemagne. Réunion France, Allemagne, Ukraine, Russie. Après-demain, les dirigeants aborderont la crise à la frontière ukrainienne où Moscou mobilise des soldats. Hier, Joe Biden, le président américain, a prévenu son homologue Vladimir Poutine en cas d'invasion de fortes sanctions financières seront prises. Plus d'1 500 000 créneaux de vaccination disponibles dans toute la France ce matin et hier. Nouveau record du nombre d'injections de rappel en une journée, 687 000, alors que près de 60 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures du jamais vu depuis plus d'un an.
On passe à l'actualité culturelle à présent.
Et le mercredi, c'est l'arrivée en salle des nouveautés. On parle cinéma avec Laurie Choleva.
Bonjour Laurie.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à vous.
On commence Laurie avec le retour au cinéma de la famille la plus célèbre de France.
C'est effectivement le retour de Cathy et Jeff Tuche pour notre plus grand bonheur. Après avoir exploré Monaco, l'Amérique, l'Élysée, la famille Tuche est enfin de retour à Bouzol. Et pour ce quatrième volet des Tuche, histoire de se renouveler et de revenir aussi aux fondamentaux, Olivier Barou, le réalisateur de la saga, nous propose un conte de Noël. Mais bien sûr, un conte de Noël à la sauce Tuche.
Ça donne évidemment le Noël des Tuches qui essaye de faire se rabibocher Jeff et puis son beau-frère. Ils sont fâchés depuis 10 ans, ils ont une histoire de voiture débile. Mais malheureusement, cette petite rencontre va mal se passer. Ça va devenir une guerre entre deux visions de Noël. Une qui est plus traditionnelle, celle de Jeff, et puis l'autre plus actuelle, celle des grandes plateformes de distribution. Donc c'est Jeff qui va s'attaquer à Magazo.
Alors, de nouveau venu dans la famille Tuche, et je cite Jeff Tuche, ce con de Jean-Yves, le beau-frère incarné par Michel Blanc, et un autre personnage joué par François Berléand qu'il faudra découvrir dans les salles, je ne peux pas vous en dire plus.
Bonjour, c'est nous les Tuches.
D'après.
C'est le moment de préparer Noël en famille.
Moi, ce qui se passe, moi, je suis couru.
Je voudrais que ma sœur soit là aussi.
Le problème, c'est son mari, ce con de Jean-Yves.
Oh oui, ça va.
Il n'y a plus besoin de jouer.
Je vends.
Vous vendez à qui?
Magazone.
Marteau. Voilà mon plan. Racheter Limarol et fabriquer des jouets en bois.
Là, vous travaillez, monsieur Tuche.
Non, je travaille pas, je suis patron. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous?
Et voilà, les millions de fans des Tuches vont pouvoir retrouver avec bonheur cette famille aussi surréaliste que touchante. Il faut savoir qu'Isabelle Nanty incarne son personnage de Cathy Tuche, mais aussi sa sœur Maggie, qui s'est embourgeoisée aux côtés de son mari, mais qui reste une Tuche dans son cœur. Et c'est une très belle prestation.
Et puis l'autre sortie majeure de la semaine, Laurie, c'est cette adaptation de la plus célèbre comédie musicale de Broadway.
Eh oui, Maria, 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 Maria. C'est quand même beaucoup mieux avec la vraie version. Et bien sûr, cette semaine, c'est l'événement, l'adaptation par le maître Steven Spielberg de la comédie musicale culte West Side Story. C'était son rêve de gosse, c'est sa comédie musicale préférée depuis toujours. Eh bien, 60 ans après, Steven Spielberg lui donne une nouvelle jeunesse. Il faut dire que le challenge était de taille quand on sait que le film, à sa sortie, est quand même resté 5 ans à l'affiche. Il a gagné 10 Oscars, mais rien n'est jamais trop ambitieux pour Steven Spielberg.
Tu veux déclencher une troisième guerre mondiale ?
Si tu sors avec ce type, personne ne te le pardonnera.
La vie compte plus que tout, plus encore que l'amour.
Une relecture moderne qui parle aussi bien des années 50 que de notre époque actuelle. Faut dire qu'il y a tous les ingrédients dans West Side Story. L'amour, la rivalité, la lutte des classes, la mixité, les injustices, les inégalités. Ça donne un film politique, romantique, épique, passionnant. Et puis surtout, la mise en scène grandiose de Spielberg. Le tout rythmé par les musiques tellement cultes de West Side Story. On en redemande et c'est vraiment un bonheur à ne pas manquer.
West Side Story à la sauce Spielberg et le retour des Tuches pour un quatrième épisode. Voilà ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine au cinéma. Merci beaucoup, Laurie Choleva.
Europe 1. Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h57, merci de choisir Europe. Nous sommes le mercredi 8 décembre, dans un instant, la météo, le journal et un constat.
Notre pays se réindustrialise. Oui, vous avez bien entendu, il y a eu cette année trois fois plus d'ouvertures d'usines que de fermetures et c'est en partie dû aux relocalisations. Vous savez, c'est la grande priorité d'Emmanuel Macron, le mantra de tous les candidats à la présidentielle, rapatrier ces usines parties à l'étranger. Ce serait la solution pour recréer un tissu industriel en France. Alors qu'en disent les chiffres? Quelles sont les entreprises entreprises qui reviennent au pays, combien d'emplois créés. On va poser toutes ces questions dans une dizaine de minutes à David Kousker, le patron de l'Observatoire économique Trendéo. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Et oui, cette histoire de Steven Spielberg sort aujourd'hui au cinéma. On en parlait à l'instant avec Laurie Choleva. Et bien, à cette occasion, et bien, je vous propose de faire machine arrière. Maria, Maria. West Side Story de 1961 avec George Shakiris, c'est absolument incroyable, et Nathalie Wood, entre autres. Rendez-vous dans 20 minutes.
Anissa Haddadi de retour pour la météo. Oui. Et il y a de la pluie pour quasiment tout le monde aujourd'hui.
Oui, je reviens avec des nouvelles pas très folichonnes, hein, puisqu'aujourd'hui on a un temps très gris, très humide, avec des intempéries qui s'installent toute la journée, avec par endroits comme par exemple dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, des pluies très soutenues. On aura même sur la région bordelaise du Grésil, hein, sur les côtes atlantiques. Ce matin en Corse aussi, nous avons des pluies fortes, soyez prudents, pensez aux parapluies. Attention, cet après-midi, ça va même changer sur la Corse, puisqu'on aura du vent, des orages et de la neige en montagne. À l'est, entre la Franche-Comté et la Côte d'Azur, on a beaucoup de pluie. En passant par les Alpes, la neige tombe en abondance sur les Alpes avec un risque important d'avalanche. À l'ouest, sur les côtes de la Manche, comme hier, on a beaucoup de vent qui souffle sur les côtes. Sur les côtes bretonnes et les côtes de la mer du Nord, on a des orages qui éclatent. Et puis le temps reste sec et ensoleillé entre les centres Val de Loire, les Ardennes et la région parisienne. Ce matin, quasiment pas de gelée. On a 0 à 8 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Nous sommes le mercredi 8 décembre. Très bon réveil à tous. Il est 6h. 687 000 injections de rappel en 24 heures. Un nouveau record de vaccination contre le Covid. Une campagne dominée par le roi Pfizer, même si les autorités poussent pour l'utilisation du Moderna. On vous explique pourquoi dès le début du journal. La décoration, c'est une affaire de goût. Et visiblement, celle envisagée pour l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ne plaît pas à tout le monde. Une centaine de personnalités signent une tribune ce matin pour protester contre le projet du diocèse. Et puis l'appel aux dons des hôpitaux pour du lait maternel. La pénurie est nationale. Une collecte pourtant indispensable pour nourrir les bébés les plus fragiles.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6 heures vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Aucune raison de douter de l'efficacité des vaccins face au variant Omicron. Déclaration rassurante de l'Organisation mondiale de la santé hier. En France, 687 000 doses de rappel injectées en 24 heures. Un record avec une préférence pour Pfizer, le roi de la campagne, avec 80% des injections. Forcément, les réserves fondent. Alors, les autorités sanitaires multiplient les initiatives pour encourager l'utilisation de son cousin germain, le Moderna. Un vaccin qui facilite aussi l'organisation de la campagne. Les explications de Céline Géraud.
Pfizer plutôt que Moderna. En pleine campagne de rappel, la préférence des candidats au vaccin est très marquée et pourtant le message des autorités sanitaires est clair. Les deux vaccins sont interchangeables. Le Moderna est même préconisé pour les plus de 30 ans. Et si on propose en priorité le Moderna en centre de vaccination, c'est aussi pour une raison logistique. Chaque flacon de Moderna contient 24 doses. Une fois entamé, il faut suffisamment de candidats pour ne pas les perdre. Le Pfizer, qui ne compte que de 6 à 7 doses par flacon, est donc envoyé en priorité dans les pharmacies où le trafic est moins important. À ce jour, il y a 20 millions de doses de Moderna à écouler contre 5 seulement de Pfizer.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.
2 ans et demi après l'incendie de Notre-Dame, à quoi va ressembler l'intérieur de la cathédrale ? Le diocèse de Paris doit présenter demain son projet de réaménagement à la Commission nationale du patrimoine.
Un projet qui n'a pas toutes les bénédictions. Ce matin, une centaine de personnalités signent une tribune dans les colonnes du Figaro. Parmi les signataires, l'historien de l'art Pierre Tecky. Il détaille ce projet qui risque, selon lui, de dénaturer la cathédrale.
Ce qui est envisagé par le diocèse à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose qui est totalement expérimental. Déménager les confessionnaux, les sculptures, à faire un jeu de chaises musicales avec les tableaux, à installer des œuvres d'art contemporain, à faire des projections de versets lumineux sur les murs. C'est quand même assez questionnant de voir qu'à Notre-Dame de Paris, on va essayer quelque chose, on va tenter quelque chose. C'est complètement incohérent. On ne va pas refaire dans un état antérieur ce qui a été détruit et ce qui a été épargné, à ce moment-là, entièrement le modifier. On aurait un bâtiment qui n'a ni queue ni tête. Il y a une déontologie, il y a un protocole lorsqu'on restaure et ce serait bien que la France fasse attention à respecter cette déontologie de la restauration pour pouvoir produire une restauration exemplaire.
L'historien de l'art Pierre Tecky, joint par Thibaut Hue pour Europe 1.
C'est une collecte dont on parle peu et pourtant si précieuse. Les hôpitaux de France manquent de lait maternel.
Du lait habituellement stocké dans les frigos des établissements. Il est d'ailleurs indispensable aux bébés prématurés. 7% des naissances en France chaque année. Mais voilà, dans les hôpitaux franciliens, marseillais aussi, les réserves sont vides. C'est aussi le cas au CHU de Bordeaux qui collecte ce lait et le distribue dans toute la France. Louise Salé.
C'est une pénurie nationale mais temporaire, c'est en tout cas ce qu'espère Delphine Lamiro, pédiatre responsable du lactarium de Bordeaux.
On a régulièrement des pénuries, hein, des baisses de lait où on est obligé de faire des appels aux dons. Actuellement, on est confronté à une augmentation des commandes, des besoins en lait maternel pasteurisé. Et là, la collecte est actuellement insuffisante pour répondre à cette demande.
La faible quantité de dons serait liée au redémarrage de l'épidémie, à une ambiance morose en cette fin d'année. Pourtant, pour nourrir un bébé prématuré, impossible de faire sans.
Ils ne peuvent pas boire autre chose que du lait maternel dans la mesure où leur tube digestif est immature. Donc plus ils sont prématurés, plus ils vont absolument avoir besoin de lait maternel. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est vraiment comme un médicament, c'est indispensable pour eux.
Pour faire un don, nul besoin de se déplacer, les collectrices viennent à domicile pour faciliter la démarche.
Et pour participer à la collecte de lait maternel, rendez-vous sur le site associationdeslactariumdefrance.fr.
L'homme n'a rien à voir avec l'affaire. L'Arabie Saoudite demande la libération de l'un de ses ressortissants arrêté hier à l'aéroport de Roissy.
Il est soupçonné d'être l'un des assassins du journaliste Khashoggi, mort en 2018 à Istanbul. L'homme qui s'apprêtait à prendre un avion pour retourner à Riyad a été placé en rétention judiciaire.
Quelques minutes à peine, c'est le temps qu'il aura fallu à ce patron américain pour licencier ses 900 salariés.
Et la méthode est brutale puisque c'est par visioconférence Zoom que ses employés ont appris tout simplement la mauvaise nouvelle. La vidéo est désormais virale sur les réseaux sociaux, même si aux États-Unis cette pratique est légale. Le récit de Marion Gauthier.
Un merci sans chaleur, comme les deux minutes que dure la conférence. Vishal Garg expédie l'annonce depuis sa salle à manger, en bras de chemise, le regard vide.
La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pleuré. Cette fois, j'espère que je serai plus fort. Nous allons nous séparer de 9% des effectifs de l'entreprise.
Mais c'est pas vrai.
Si vous êtes sur cet appel, vous faites partie du groupe des malchanceux qui sont licenciés.
Des malchanceux qui, en manquant de productivité, volaient collègues et clients, expliquera le PDG de l'entreprise valorisée 7 milliards de dollars. Des malchanceux dont fait partie Mélissa, 30 ans.
Notre ordinateur s'est éteint. 5 minutes après, nos accès étaient coupés. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Mon cœur s'est emballé. J'étais dévastée. J'ai pris mon compagnon dans mes bras longtemps. On a tous les deux compris que les choses allaient changer.
Le couple doit enterrer son projet de maison. Impossible désormais de faire un prêt immobilier. Enceinte de 5 mois, la trentenaire s'est empressée de chercher un nouveau travail et remarque amère que Better.com recrute.
Le récit de Marion Gauthier.
Et puis on l'apprend à l'instant à Sanary, une deuxième victime, une femme de 82 ans, a été retrouvée sous les décombres de l'immeuble effondré près du port. C'est ce qu'indiquent à l'instant les pompiers à l'agence France Presse. Merci beaucoup Marion Bromanoquet pour ce journal.
6h06 sur Europe 1, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et le PSG enfin convaincant hier soir.
Oui, les Parisiens ont balayé les Belges de Bruges. Victoire 4-1 grâce à deux doublés de Mbappé et Messi. Si la seconde période a été un peu plus compliquée, la première a montré de quoi Paris était capable lorsque ses stars jouent au diapason. De quoi satisfaire forcément l'entraîneur Mauricio Pochettino.
Je suis content du niveau de jeu montré aujourd'hui, surtout en première période. C'était un pas en avant. On a vu des améliorations dans le jeu, dans l'entente entre les joueurs. Et je suis content pour eux parce qu'ils avaient besoin d'une performance comme celle-ci.
Dans les autres matchs de la soirée, c'est l'Atlético Madrid qui arrache le dernier ticket pour les huitièmes de finale. Victoire 3-1 contre Porto grâce à Antoine Griezmann, buteur et passeur.
Ce soir, c'est Lille qui va tenter de rejoindre le PSG.
Oui, les champions de France au rendez-vous avec Wolfsburg. Un match nul leur suffit pour se qualifier. Mais le capitaine José Fonte ne croit pas à ces petits calculs d'apothicaire.
Si on joue pour le match nul, on est très proche de perdre ce match-là. Donc, on joue tous les matchs pour gagner. C'est un match qu'on va tout faire pour essayer de gagner.
Match à suivre en direct sur Europe 1 avec une soirée spéciale à suspense dans le groupe de Lille. Les quatre clubs peuvent se qualifier, tandis que le Barça et Benfica et Villarreal et l'Atalanta vont batailler pour les deux derniers strapontins.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du hand et des Bleus qui terminent le tour préliminaire invaincu, une victoire 24-19 hier contre le Monténégro. Du basket et Monaco qui prend sa revanche sur l'Asvel. Les Monégasques sont deuxièmes de la Betclic Elite, leur adversaire du soir quatrième. L'exploit des hockeyeurs de Rouen qui ramène un match nul de leur quart de finale de Ligue des Champions à Tampere en Finlande, 3-3. Match retour en Normandie mardi prochain. Et puis un coup de tonnerre pour le tennis français. Guy Forget n'est plus directeur de Roland-Garros et de Bercy. Il a démissionné hier. Selon l'équipe, c'est Amélie Mauresmo qui pourrait le remplacer.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, une bonne nouvelle. On n'a jamais eu autant de relocalisations depuis bien longtemps, mais est-ce que ça va suffire pour réindustrialiser la France? Réponse dans deux minutes, à tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11 et votre invité, Julien, est le créateur et gérant de Trendéo.
Observatoire économique de référence, notamment pour ses indicateurs sur les ouvertures et fermetures d'usines. Bonjour David Kousker.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous avez réalisé un état des lieux, des relocalisations et le bilan est positif car 2021 est d'ores et déjà, selon vos chiffres, le meilleur millésime depuis 2009.
Oui, on assiste depuis septembre 2020 à une forte hausse des relocalisations.
C'est-à-dire combien exactement ?
Cette année, 86 contre 30 l'an dernier. Donc ça a démarré au quatrième trimestre 2020 avec le lancement du plan France Relance. Et donc, on assiste à un grand nombre de relocalisations par des PME ou des ETI qui achètent une machine et décident de rapatrier une production qui était auparavant soit réalisée en direct à l'étranger, soit sous-traitée à un prestataire extérieur.
C'est uniquement l'effet du plan de relance de ces millions d'aides financières que l'on accorde à ces entreprises pour qu'elles reviennent en France ?
Non, c'est le plan de relance, c'est un deuxième coup de pouce. Le premier, historiquement, c'était un besoin qu'on sent monter depuis plusieurs années de Made in France et d'achat local. Mais c'était uniquement un aspect un petit peu sentimental. Le plan France Relance est un deuxième facteur qui a permis pour les PME d'acheter des machines et donc d'investir. Donc ça a rendu les choses possibles du côté financier. Et puis le troisième point, c'est le fait que avec le Covid, on s'est rendu compte que vouloir se sourcer au plus bas prix, c'est uniquement prendre en compte les aspects financiers des approvisionnements pour un industriel. Et ça a un coût quand justement les chaînes de production connaissent des problèmes du fait du Covid, mais il peut y avoir aussi un jour des blocages stratégiques parce que un pays est le seul producteur de tel ou tel produit et décide de bloquer les approvisionnements. Donc il y a des questions stratégiques aussi qui sont rentrées un peu en perspective. Donc ça fait trois facteurs différents pour
qui explique ces bons chiffres.
Booster un petit peu ces relocalisations, absolument.
Alors plus globalement, on a eu trois fois plus d'ouvertures d'usines que de fermetures cette année, ce qui est assez inédit ces dernières années. Enfin, on a enfin réussi à stopper la désindustrialisation de notre pays.
On est en tout cas sur... on a réussi à inverser la tendance, mais on est au début du chemin, si on compte justement le solde de toutes les usines qu'on a perdues depuis 2009. On est encore à quelque chose comme moins 450. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on commence à rattraper et il y a plusieurs indicateurs qui vont dans le bon sens, que ce soit le solde des ouvertures et fermetures d'usines, les relocalisations, les créations nettes d'emplois industriels. Tous ces indicateurs-là aujourd'hui sont bien orientés, plutôt en positif. La question, c'est de savoir jusqu'à combien de temps ça va durer, évidemment, et notamment qu'est-ce qui se passe quand on supprimera les aides liées au Covid à la mi-2022.
Il y a un indicateur, en revanche, qui n'est pas bien orienté, pour reprendre l'expression que vous employez, c'est celui de notre déficit commercial qui continue de se creuser. 86 milliards d'euros attendus cette année, ce qui est un niveau inédit. Il y a un peu là un paradoxe, non ? On n'a jamais eu une balance commerciale aussi dégradée l'année où on a eu le plus de relocalisations.
C'est vrai, il manque encore des relocalisations, notamment dans les grands groupes. Les grosses productions de masse, celles qui creusent le déficit commercial, par exemple les voitures individuelles, ne sont pas encore au rendez-vous des relocalisations. Et pour le moment, les relocalisations sont surtout un phénomène qui concerne les PME et ETI. Les grands groupes sont relativement absents.
Comment vous l'expliquez ?
Automobile également.
Comment vous l'expliquez ? Comment se fait-il que, malgré les incitations financières, les appels du pied répétés de nos dirigeants, que les grands groupes ne jouent pas le jeu ?
C'est compliqué. Quand on parle de grands groupes, on parle de grands investissements, on parle de stratégies d'investissement qui sont gérées à 5-10 ans. Pour refaire des gros investissements en France, il faut des terrains, il faut qu'on se réhabitue à rouvrir des grands sites.
Ce n'est pas qu'une question de coût du travail, en fait.
Ce n'est pas qu'une question de coût du travail, c'est vraiment l'industrie, c'est un complexe. Il y a des facteurs, y compris sociologiques et d'éducation. On voit dès 2016, quand il y a eu une reprise dans l'industrie, on se heurte à des difficultés de recrutement. Notamment parce que les gens sont plus formés au métier de l'industrie. Donc, il faut le temps que, via le système éducatif, se diffuse l'idée que finalement, il y a des perspectives, il y a de l'embauche, et ce n'est pas un secteur qui est voué à disparaître, comme on pouvait l'imaginer il y a 10-15 ans.
Et le résultat de l'absence de ces grands groupes dans les relocalisations, c'est l'autre point très intéressant que vos chiffres montrent, c'est qu'une relocalisation ne crée que 30 emplois en moyenne, quand une délocalisation, elle, en détruit 80, soit quasiment 3 fois plus.
Absolument. Ce sont des moyennes qui sont établies, qu'on tient depuis 2009. Ça veut dire aussi, c'est la mémoire du fait qu'en 2009, on a assisté à des délocalisations qui concernaient des très grands sites industriels. Des sites à 250, 300, 400 salariés qui fermaient. Alors qu'aujourd'hui, le mouvement est, je l'espère, à ses débuts. Et de toute façon, il y a une tendance à réaliser des usines aujourd'hui un petit peu plus petites, plus technologiques, avec plus de robots et donc moins de salariés. C'est aussi une des conditions pour arriver à relocaliser, c'est que les salaires en France restent plus élevés qu'ailleurs. Que ceux de nos concurrents. Il faut en échange plus automatiser et robotiser quand on investit en France.
Merci beaucoup David Kousker, fondateur de Trendéo, d'avoir répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairé sur ces relocalisations. 86 donc au compteur pour l'année 2021. Très bonne journée à vous.
Merci à vous aussi.
Vous restez avec nous, la partition de West Side Story de 1961 à suivre.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h19 sur Europe 1. Les principaux titres de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Les vaccins contre le Covid sont a priori efficaces contre le variant Omicron qui ne semble pas plus dangereux que le Delta. Nouvelle plutôt rassurante de l'OMS et de la Maison Blanche alors que près de 60 000 cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France. À Sanary-sur-Mer, au lendemain de l'effondrement d'un immeuble quartier du Port, une deuxième victime a été retrouvée sous les décombres cette nuit. Il s'agit d'une femme de 82 ans. Olaf Scholz devient aujourd'hui chancelier. Le social-démocrate succède ce matin après le vote du Bundestag à Angela Merkel à la tête du pays depuis 16 ans.
On conclut avec votre partition, Omblin. C'est aujourd'hui que Steven Spielberg présente au cinéma sa nouvelle version de West Side Story. Avec vous, on retourne en 1961 sur le plateau du tournage du film original.
West Side Story est un classique absolu des comédies musicales, né 4 ans plus tôt sur les planches de Broadway.
West Side Story est une œuvre inspirée de Roméo et Juliette de Shakespeare, mais transposée dans l'Amérique de l'après-guerre.
Une histoire d'amour entre Maria et Tony sur fond de haine raciale, de guerre entre deux gangs rivaux. Et Jets d'un côté, les Américains blancs issus de familles irlandaises, italiennes et polonaises, et les Sharks de l'autre, venus de Puerto Rico. Leur terrain de jeu, c'est le quartier pauvre de l'Ouest new-yorkais.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
Pour la réalisation, le chorégraphe Jérôme Robbins travaille en étroite collaboration avec Robert Wise.
Oui, ce qui provoque quelques remous. Leurs exigences épuisent toute l'équipe, comédiens et danseurs. Les tâches sont réparties, Jérôme Robbins s'occupe des scènes de ballet et d'ailleurs pour abus de répétition des chorégraphies sur le plateau, il est renvoyé à mi-parcours.
Maria, Maria, Maria. Just met a girl named Maria.
C'est Elvis Presley qui devait tenir le rôle de Tony.
Oui, proposition qu'il a déclinée. Richard Bemer, cantonné jusqu'alors au rôle de figuration, est choisi. Natalie Wood devient Maria à la place d'Audrey Hepburn. Tous les deux, qui s'ignorent cordialement entre les prises, sont doublés pour les chants.
There's
Les chorégraphies, les chansons qui subliment l'histoire avec des paroles de Stephen Sondheim sont acclamées par la critique et le public.
Mais ce sont bien les compositions de Leonard Bernstein qui font le succès de West Side Story.
Une musique populaire influencée par le jazz, le mambo, le cha-cha-cha à grand renfort de cuivre et de cordes. Écoutez la voix de Marnie Nixon qui doublait Nathalie Wood en 1961, suivie de celle de la Maria de Steven Spielberg, Rachel Zegler.
I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See that pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria?
The craziest girl.
She's in love, she thinks she's insane.
Aye, she isn't in love, she's merely insane.
It must be the heat, or some hair disease, or too much to eat,
or maybe it's fleas. Keep away from her,
send for Gino. This is not the body no.
Modest and pure,
polite
and refined, well-bred and mature.
I Feel Pretty par Rachel Zegler, la Maria de Steven Spielberg qui emboîte le pas de la légendaire Nathalie Wood. West Side Story sort au cinéma aujourd'hui. Le film original, lui, fête ce mois de décembre ses 60 ans. Et pour le clin d'œil, Rita Moreno, qui jouait Anita en 1961, endosse le rôle de Valentina en 2021. La patronne du petit drugstore, elle aura 90 ans samedi.
Et puis si vous voulez voir le film original, je crois qu'il y a quelques salles qui le reprogramment à partir d'aujourd'hui également. Merci beaucoup Omblin. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi pour la météo. À tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27 et c'est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous demain.
Dès 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour. Non, je suis désolé.